بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour essayer d'étudier un petit peu les versets d'Al-Fatiha. Les derniers points qu'on avait vus la semaine dernière, c'était tout d'abord les vertus de la sourate Al-Fatiha, et on a vu également Al-Isti'adha ou Al-Basmala, l'importance de dire Abulam de Shaitan al-Rajim et la mise en garde contre les pièges de Shaitan et Waswasa et le mauvais chemin vers lequel Shaitan essaie de nous emmener. Et la basmala, on avait vu la baraka, la bénédiction qu'il y a, et le fait de commencer une action en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est placer sa confiance en Allah. C'est être persuadé que nous sommes faibles, nous n'avons pas la possibilité de mener à bout nos projets et de même avancer dans la vie sans l'aide de notre Seigneur Azza wa Jal. C'est vraiment le croyant qui se fie à Allah Rabbul Izzah tamaman, complètement, et qui place sa confiance en lui et qui demande à Allah Azza wa Jal abtadi'u bismillah, je démarre, je commence cette action en mentionnant le nom d'Allah Azza wa Jal. Nous allons commencer ce soir inshallah véritablement le tafsir de Al-Fatiha, et on souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui sont avec nous sur le groupe. Ce sont des inshallah des personnes qui étaient dans le khidma du séminaire Hidayah à Paris. Et du coup, vous avez raté que l'introduction d'Al-Fatiha. Et alhamdoulilah, vous êtes présents. Pour le premier verset, alhamdoulilah, rabbil alamin. Donc on démarre, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdoulilah, rabbil alamin. Et on se suffira du premier verset pour ce soir. Et vous allez vous rendre compte que ce premier verset que nous lisons dans la salat, mashallah, entre 17 et 20 fois par jour au minimum, et ça peut aller jusqu'à 30 en fonction des nawafil que nous accomplissons, je vous assure que si on creuse uniquement dans les mots qui constituent Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanallah, il y aurait tellement de choses à dire, il y a tellement de lumière, il y a une perfection dans la révélation d'Allah Rabbul Izzah, il y a une telle profondeur dans le sens des ayat que le simple fait de lire Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça remplit, wallahi, ça remplit nos cœurs de joie, de bonheur, de reconnaissance et de ta'zimullah, de cette sensation de reconnaître et d'apprécier le moment d'être présent devant Allah dans la salah et ressentir la grandeur d'Allah Rabbul Izzah. Alors on se base ce soir sur trois ouvrages différents. Ibn Kathir, non, parce que la tafsir al-Fatiha Ibn Kathir, ce n'est pas le plus adapté. On a le tafsir de Sa'di qui reste la base. On a un excellent tafsir qui s'appelle tout simplement Taysir al-Qur'an al-Karim. C'est le tafsir de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Malheureusement, il n'y a que le Juz Amma avec Al-Fatiha qui a donc été imprimé. D'accord, mais c'est un excellent tafsir qui n'a pas été traduit. Et puis l'ouvrage que vous a présenté la dernière fois, cet auteur qui habite dans la région d'Al-Qasim, qui a fait des recherches sur les sagesses pour lesquelles Allah Rabbul Izzah nous demande de lire autant de fois le Fatiha. Donc on se base sur trois supports différents. L'objectif, c'est quoi? C'est pas de faire un étalage de connaissances. Ce ne sont pas mes connaissances à moi. On ne fait que reprendre ce que les grands savants ont rédigé. Le but, c'est qu'il y ait une prise de conscience, d'accord, sur la puissance des versets et, je dirais, même de chaque mot qui constitue le verset d'Al-Fatiha. Et il en est de même pour chaque ayah du Coran. Pour que se crée en nous le talab, la motivation, l'envie et le désir de connaître un peu plus notre religion, d'avancer et de ne pas suffire de nos acquis. Parce que wallahi al-azim, nos acquis, ce qu'on appelle, si on peut appeler ça des acquis, sont vraiment minimes, c'est infime. Et on a l'impression qu'on a déjà fait un très bon parcours dans notre cheminement religieux ou dans notre apprentissage de la connaissance religieuse. Mais plus on avance, plus on se rend compte que subhanallah, finalement, on ne connaît pas grand-chose. On ne connaît pas grand-chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin a été traduit par Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le premier le premier point qu'on va voir, c'est le terme Alhamdu. Alhamdu a été traduit donc en français par les louanges. Alhamdu ibn Uthaymin, rahimahullah, yaqul wasful mahmoud bil kamali ma'al muhabbati wa ta'zim. Alhamdu, c'est un terme déjà, on doit le préciser, qui est spécifique à Allah Azza wa Jal. Parfois, le terme hamd est traduit par ashukru. Certains pensent que Alhamd, c'est un synonyme de Ashukru. Mais il n'y a aucun rapport. Quand je dis Ashukru, il y a des fois où on dit Alhamdulillah, Ashukru lillah. Oui. Mais le Shukru, c'est plutôt pour les créatures. On fait preuve de gratitude. On peut remercier une personne, un professeur ou des parents ou peu importe, pour quelque chose qu'il nous a accordé. Mais le Shukru, c'est par rapport à une action ou alors un geste et on est reconnaissant. Alhamd ibn Uthaymin rahimahullah explique que Alhamd c'est un terme beaucoup plus puissant qui comporte il y a trois notions qu'on retrouve dans Alhamd: al-kamal, al-muhabba, at-ta'zim. Le hamd, les louanges, on va le traduire par les louanges parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Les louanges qui sont véhiculées par le terme hamd, c'est uniquement pour celui qui est parfait, qui est kamil, celui qui a toutes les qualités, et cela n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Lorsque je dis Alhamdulillah, il y a dans mon cœur une prise de conscience que je suis en train de faire les louanges du Seigneur des mondes. C'est pour ça que le terme Hamd vient juste avant Rabbil Alamin. Et Rabbil Alamin, on verra, le Seigneur des mondes. Et le seul qui mérite le terme Hamd, c'est justement le Seigneur des mondes. Le terme Hamd n'est utilisé ni pour un roi, ni pour un prince, ni pour quiconque. C'est uniquement pour Allah Azza wa Jal, parce que c'est pour celui qui est parfait. C'est le Créateur. Deuxièmement, quand je dis Alhamdu, dans mon cœur doit naître Al-Muhabbatu Lillah, l'amour d'Allah. Et quand je dis Alhamdu, dans mon cœur, je dois également ressentir Ta'zimullah, la grandeur d'Allah. Tout un programme, hein, subhanallah. Les Alhamdu, nous on les enchaîne et on les lit, d'accord. Mais si on s'attarde vraiment sur, j'allais dire le choix des mots, c'est pas le choix des mots, sur la révélation de notre Seigneur, chaque terme a son importance, chaque terme a sa portée. Ainsi, je reprends, quand je dis Alhamdulillah, dans mon cœur, je dois ressentir que je suis en train de m'adresser au Seigneur des mondes, Rabbil Alamin, et que ce Seigneur des mondes, je l'aime. J'aime Allah plus que tout au monde. Et j'éprouve dans mon cœur la crainte d'Allah. Je ressens la grandeur d'Allah. C'est tout ce qui doit trouver place dans mon cœur lorsque je dis Alhamdulillah. Ça doit être vraiment quelque chose de puissant, de profond. C'est pour ça que je vous avais demandé d'écouter l'Al-Fatiha de Cheikh Salih ibn Mohammed al-Soubeil, même si certains vont trouver cette lecture un peu atypique, d'accord. C'est bon, c'est quelqu'un de très âgé, il a une voix de personne âgée, mais moi j'aime la façon qu'il dit Alhamdulillah, parce qu'il insiste sur Alif Lam, le Alif Lam, l'article. Et on peut le dire tout de suite, après je vais reprendre le fil. Quand on dit Alhamdulillah, pour ceux qui ont un minimum de connaissances en langue arabe, Alif Lam, c'est l'article, c'est l'équivalent de le, la ou l'apostrophe. Et c'est traduit par, mal traduit d'ailleurs, louange à Allah. La véritable traduction serait été toutes les louanges reviennent à Allah et uniquement à Allah. Avec Mubalara, avec une exagération, en mettant toutes et en rappelant uniquement à Allah. Parce qu'il y a, là on est un petit peu dans la grammaire, mais il est quand même important de pouvoir analyser chaque mot, et parfois même ce qui n'est pas un mot mais des huruf, pour qu'on comprenne la construction d'Al-Fatiha et la portée de chaque lettre et de chaque mot dans les phrases. Al, c'est l'article, et quand on dit Alhamdu, c'est toutes les louanges. Les ulama, les mufassirin, rahimahumullah, on entre Ibn Uthaymin, يقول ألف لام للاستغراق أي جميع المحامد. الاستغراق c'est pour la totalité, toutes les louanges reviennent à Allah. Et le terme لله, dans لله, si vous avez un mushaf sous les yeux, vous remarquez que pour ceux qui ne sont pas du tout arabophones cette fois-ci, que لله ça ne s'écrit pas de la même façon que le nom d'Allah. لله, il y a un lam qui est rajouté au nom d'Allah, Azza wa Jal, et li en arabe, ça veut dire pour, à l'attention de. Ibn Uthaymin dit, Lillahi ay al-ikhtisas wal-istihqaq. Le lam, qui veut dire pour, à l'attention de, c'est utilisé pour Allah dans le sens de al-istihqaq. Istihqaq, on retrouve peut-être une racine qu'on connaît, c'est haq, huquq, des droits. C'est uniquement Allah qui mérite les louanges. Al-ikhtisas, je retrouve peut-être une racine, un mot qu'on connaît, quelque chose qui est khas, quelque chose qui est spécifique. Donc là, on voit qu'il y a l'article al qui veut dire l'ensemble, la totalité des louanges reviennent lillahi pour Allah et uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et chaque mot, normalement, doit résonner fi sadri, dans ma poitrine, quand je lis. Peut-être quand je suis du verbe suivre, la lecture du imam, et ça s'enchaîne, ça va peut-être un peu vite. J'ai du mal à bien mettre en avant tout ça, à me rappeler de tous ces points. Mumkin. Mais lorsque je prie Qiyamul Layl, d'accord, et pour nos frères et sœurs de métropole, vous êtes, mashallah, déjà dans la dernière décade, et vos nuits, je ne sais pas si le combien Ramadan chez vous, mais vous êtes dans la dernière décade. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne distingue pas les nuits paires et les nuits impaires. On fait le maximum de ibadah dans chaque nuit, et c'est le moment par excellence de faire le qiyam ou le tahajjud. Et allez, c'est la première parenthèse de la soirée, permettez-moi. Je lisais tout à l'heure un article, un tweet, je ne suis pas sur Twitter, j'ai horreur de ça, mais j'ai reçu une capture d'écran, je vous le lis, et j'ai trouvé ça très beau, et je voulais vous le lire, de Cheikh Abdul Aziz à At-Turayfi, rahimahullah, yaqul, c'est son avis, hein, c'est pas un hadith, yaqul, afdalul a'mali fi laylatil qadri wa layali al-'ashr, les meilleures actions lors de la nuit du destin et dans la dernière décade, as-salah, la prière, wal-Qur'an, la lecture du Qur'an, wa-du'a, et les invocations, d'accord. Certains vont dire, mais l'istighfar, on peut l'inclure dans Ad-Du'a. Il dit que afdalul ahwali, le meilleur, voyez le compromis ou le choix le plus intelligent, la meilleure répartition, c'est jam'u thalathati bi itali al-qiyam bil Qur'an wa italati as-sujud bi du'a. Le meilleur compromis, si je veux vraiment, c'est un mot moderne, je veux optimiser ma nuit de prière, c'est de fusionner tout ça en faisant italat al-qiyam, des qiyam, c'est la position debout dans la salat, des qiyam qui sont très longs, en lisant beaucoup le Coran. Il veut dire plutôt que de diviser la nuit en trois parties, je fais 12 unités de tahajjud, d'accord, pendant 2 heures, imaginez. Ensuite, je lis le mushaf, le Coran, pendant 1h30, je fais dua 1 heure, son avis, hein, son conseil, c'est d'allonger les unités de prière, des qiyams qui sont longs, et de lire notre Coran dans ces rak'at. Bien sûr, pour ceux qui mémorisent une grande partie. Après, pour ceux qui sont d'autres écoles, du fiqh maliki, shafi'i, imam Ahmad, bien sûr, la lecture est autorisée dans un mushaf de la salah, ce qui n'est pas possible chez imam Abu Hanifa. C'est des masalas qu'on a déjà plus ou moins abordé. Donc, on veut dire que ce qu'il veut dire, c'est faire de longues unités de prière dans lesquelles vous lisez le maximum de Coran et lorsque vous priez dans vos prosternations, ben faites vos du'as, vos invocations dans les prosternations. Donc, quand on a du temps le soir pour les prières de la nuit, c'est le moment d'essayer de ramener un peu toutes ces notions. Et quand vous avez vos mains sur Al-Sadr et que vous lisez Alhamdulillahi Rabbil Alamin, essayez de penser, il n'y a pas de mal à répéter le même verset. Et dans certaines sources, il est mentionné qu'on peut répéter le même verset à plusieurs reprises dans une salat qui est nafila, comme la prière de la nuit, pas dans une prière obligatoire de Maghrib, l'Isha et ainsi de suite. Dans une prière non obligatoire, on a le droit de répéter un même verset plusieurs fois. Si le but, c'est d'essayer de ressentir la profondeur et la puissance des versets. Et c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde de faire. Ainsi donc, je vous fais une démonstration pour ceux qui ont le visuel, c'est de lire, vous dites Alhamdulillah et vous ressentez Alhamdulillah. Vous ressentez que toutes les louanges, Ya Allah, je te suis reconnaissant et je proclame Ya Rab mon amour pour toi et je te reconnais comme Ilah al-Alamin, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes le plus grand. Essayez, réveillez vos cœurs, faites en sorte que ce cœur frémit et tremble par amour pour Allah et par crainte d'Allah, et ce cœur soit rempli d'humilité et de reconnaissance, parce qu'Allah me permet à cet instant de me présenter devant lui. Le simple fait d'être présent parmi les musallines ce soir, c'est un ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jal. Et quand tu dis Alhamdulillah, parce que le premier message, Alhamdulillah, c'est les remerciements, ben, essaie d'éprouver ce sentiment de reconnaissance envers Allah qui te permet de te tenir debout devant lui. Et quand tu lis cette formule de reconnaissance, ressens également l'amour profond, comme si ton cœur brûle d'amour pour Allah, mais également ton cœur frémit devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal, qui est Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Hada. Voilà donc pour le sens de Hamd, pour l'article Al, qui veut dire Jami' al-Mahamid, toutes les louanges, et Lillahi, la préposition Li, c'est-à-dire que revienne à Allah et uniquement à Allah, Azza wa Jal. Hada. Alhamdulillahi, lafzul jalala, le nom Allah. Alhamdulillah. En aqida, là on passe dans une autre matière, on va dire, une autre thématique. En aqida, les savants, ils expliquent que Allah Azza wa Jal, le nom sacré d'Allah, c'est à la base Al-Ilah. Allah, c'est Alif Lam, Al-Ilah. Al-Ilah, c'est le Dieu. Et Ilah, si on creuse un petit peu, là je vous embête avec un peu d'étymologie et tout, Al-Ilah huwa al-ma'luh. C'est compliqué, je sais que c'est technique, mais on veut vraiment vous proposer un tafsir de niveau tulab al-ilm. Pas un tafsir qu'on ferait, on va dire, avec des enfants, ou voilà, basique, non, mais quelque chose qui vient des kutub, des grands savants, et je vous le donne, j'essaie de vous le transmettre de cette façon pour qu'on retienne un maximum, inch'Allah, d'informations, pour que on étudie une fois dans notre vie l'Al-Fatiha, mais que cela marque nos cœurs et qu'on retienne qu'on les retient, et que cela nous permettra d'améliorer notre salat et notre relation avec Allah Azza wa Jal de façon générale. Alhamdulillahi, le nom Allah, c'est Al-Ilah. On sait que Ilah, ça veut dire Dieu, et Al, c'est l'article le Dieu, c'est-à-dire le Dieu unique. Et Al-Ilah ensuite été fusionné pour donner le nom sacré d'Allah, Allah, qui, je le rappelle, veut dire à la base Al-Ilah. Et Ilah, ça vient, on voit avec la racine Ilah, et Al-Ma'luh. Al-Ma'luh, c'est celui qui est adoré. Ainsi donc, dans le nom sacré d'Allah, il y a la notion d'adoration. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Al-Ma'luh, Ibn Uthaymin dit, المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. Oh, j'aime bien quand Ibn Uthaymin il donne de telles explications, de tels détails qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'ouvrages. المعبود حبا وتعظيما, celui qui est adoré par amour et celui dont on proclame la grandeur et devant lequel on s'incline parce que c'est le Seigneur des mondes. C'est tout ce qui doit habiter mon cœur lorsque je parle d'Allah et lorsque je me tiens debout devant lui en lisant le verset qui nous a révélé. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le mot Rab, non, ça on verra dans un instant. On voit quelques vertus du terme Hamd, même si ce soir on se limite au Hamd, les louanges, d'accord, c'est déjà une bonne chose. Donc là on passe à l'ouvrage qu'on vous a dit du docteur Ibrahim Ibn Abdillah, c'est quelqu'un qui a fait donc un doctorat en Uloum al-Qur'an, en science du Qur'an, c'est-à-dire, je vous le dis, quand on dit un doctorat en Uloum al-Qur'an, c'est quelqu'un qui a eu son baccalauréat, donc on appelle ça le Shahada Thanawiyya, qui a fait ses 4 années de licence, qui a fait ensuite 4 années de master, qui a fait 4 années de doctorat, qui a présenté sa thèse, et ça veut dire que, mashallah, hein, c'est des gens qui se sont donné une grande partie, presque un tiers de leur vie, pour Uloum al-Qur'an, et ils méritent vraiment notre respect, et pareil, les savants du monde entier qui consacrent leur temps et leur vie pour étudier le Qur'an, les hadiths, les aqidah, et pour nous le transmettre, qu'Allah Rabbul Izzah les garde sous sa protection. Le cheikh, il a rédigé donc un chapitre sur Al-Thana, les louanges qu'Allah fait de lui-même dans Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et il cite le hadith de Al-Aswad ibn Sari, anna Nabi alayhi salat wa salam, qal. قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أحب إليه المدح من الله تعالى ولذلك أثنى على نفسه فقال الحمد لله. Dans ce hadith qui est rapporté par Al-Tabari, le prophète عليه الصلاة والسلام, نعم, le hadith a été authentifié par Ahmed Shakir. Le prophète عليه الصلاة والسلام rappelle, nous enseigne que Allah عز وجل aime que ses serviteurs font ses louanges. C'est pour ça qu'Allah Rabbul Izza a révélé des louanges le concernant. Athna ala nafsi, Allah Rabbul Izza nous a révélé des versets de louanges le concernant. Et c'est Alhamdou, Alhamdulillah, afin que nous, croyants, nous pouvons faire les louanges d'Allah Rabbul Izza par la meilleure des formules. C'est la formule qu'Allah s'est attribuée pour lui-même et qu'il nous a donc révélée. Le cheikh nous rappelle également que le hadith qu'on avait vu en introduction, que lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah Rabbul Izza répond Hamidani Abdi, mon serviteur a fait mes louanges. Et il dit Fa'ayyu fadilatin il-musalli fawqa hadhihi al-fadila. Mais quel grand honneur et quelle vertu plus importante pour quelqu'un qui prie que de savoir que lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen, il y a une réponse qui vient de notre Seigneur qui atteste que mon serviteur, et c'est une réponse d'Allah qui est personnalisée. Pour chaque personne qui lit Al-Fatiha, Allah atteste que son serviteur a fait ses louanges. Il dit quel honneur de savoir que le Seigneur des mondes répond aux louanges que j'ai formulées, moi, simple mortel, pécheur qui me présente devant lui avec tellement de manquements, je fais les louanges de mon Seigneur et mon Rab me fait l'honneur de répondre à mes louanges. Naam. Et il dit, mais combien de croyants, quel est le pourcentage de musulmans de le monde qui prient et qui est conscient de cet échange qu'il y a avec Allah Azza wa Jal lorsqu'on lit Al-Fatiha. Et dit d'où l'importance de la connaissance religieuse. Quand on connaît les vertus, ben on prend considération et donc on s'applique. Donc différence entre celui qui lit Alhamdo. J'ai déjà entendu c'est une situation qui m'avait irrité. Une personne, d'accord, un qari, quelqu'un qui a une belle voix, qui lit bien le Coran, dans la salah, cette personne avait lu une fois Al-Fatiha en un souffle. C'est pas impossible. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmid Din, Iyyaka Na'budu, Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Sirata al-Mustaqim, et jusqu'à la fin. Et il avait l'air très content de lui. Hein. Je ne juge pas, je ne dis pas qu'il a fait ça pour faire voir, pour faire genre ou ostentation, mais je me suis posé la question, mais pourquoi ? Ça apporte quoi ? Tu as prouvé quoi à qui? Wallah Musta'an, on est en train d'aller vers une, je ne sais pas si ça s'appelle une perfection, ou alors on est en train de peaufiner la façon de lire, tout comme, et là je ne porte aucun jugement, on a certains Qurans qui insistent tellement dans leur lecture, ils insistent tellement sur le tajwid que c'est presque une overdose de tajwid. C'est excessif. Certes, Allah nous a demandé d'apporter une mélodie et de parfaire et de rythmer la lecture du Coran, et le tajwid, c'est quelque chose qui est spécifique à la lecture. Mais je veux dire, je pense que vous me comprenez, des fois on se focalise tellement sur la forme. D'accord? Je suis sûr, si on, je sais pas on est à combien, si vous lisez Al-Fatiha devant certains Qurans, ils vont tous dire que voilà, le Wal-Dhalin n'est pas bien lu. Le Dhalin, le Madda doit être plus long, le Lam doit tenir tant de secondes, et le Ya qui vient après. Oui, dans un idéal. Mais je veux dire que, est-ce que c'est ça qui va me sauver? C'est un peu cru de le dire comme ça, hein. Mais est-ce que le fait de dire un Wal-Dhalin de façon parfaite, et là aussi le Dhad, il faut qu'il y ait un léger, enfin, la façon de placer la langue et de gonfler les joues, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est ça l'objectif du Coran? Et c'est pour ça que C'est un peu dommage des fois que nous nous attardons tellement sur la forme et nous oublions le fond, le contenu. Vous savez, une personne peut, mashallah, une personne qui est reconvertie à l'islam par exemple, qui ne sait pas lire l'arabe et qui après la Fatiha en phonétique, d'accord, et qui lit avec une lecture, on va dire, saccadée, une lecture avec des fautes, avec des erreurs, parce qu'il ne connaît pas, mais il le lit avec tellement de cœur et tellement d'amour pour Allah Azza wa Jal, sans le moindre doute, c'est une lecture qui est aimée et appréciée par Allah. Et c'est pas parce que il ne sait pas prononcer le Ayn, parce que c'est un Français, un Français d'origine, je veux dire, qui n'a jamais prononcé un Ayn, ni un Kha, ni un Qaf, et ainsi de suite. C'est pas parce qu'il ne sait pas prononcer ses lettres ou ses mots, tout ça, que c'est une lecture qui sera rejetée par Allah ou Allah. Bil'aks, le prophète alayhi salat wa salam nous a rappelé que la personne qui lit le Coran avec difficulté a deux fois plus de récompenses, celle de la lecture, mais également celle de l'effort et les difficultés qu'elle a eues pour essayer de tenir la lecture. Donc, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est le lien avec Allah Azza wa Jal, sur le sens profond des versets, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à un moment donné à faire émerger de notre cœur l'amour d'Allah dans notre lecture du Qur'an, de la Salah. Il faut qu'on arrive à sortir un petit peu de la simple lecture ou du nombre de versets qu'il faut couvrir pour arriver à un niveau où on peut ressentir. Et c'est dans le Qiyamul Layl que je vous conseille de vous entraîner en lisant Al-Fatiha, en répétant les mots à plusieurs reprises s'il le faut, afin qu'on arrive, jusqu'à ce qu'on arrive à ressentir l'amour et la grandeur d'Allah dans notre lecture et ce sentiment d'humilité mêlé à de la reconnaissance d'être debout devant Allah à 2h30 du matin en train de faire ses louanges et d'obtenir les doigts des malaïka et qui rapportent à Allah ce que nous faisons. C'est vraiment la situation la plus enviable de ce monde et c'est tout ça qu'on doit essayer de ressentir. Donc différence entre celui qui lit sans comprendre et sans essayer même de se concentrer et que son but c'est juste de parcourir et d'avancer, de finir son khatm al-Qur'an, et celui qui va essayer de le faire avec tadabbur et khushu', qu'Allah nous accorde la dévotion et la compréhension d'Al-Fatiha, mais également la compréhension de l'importance de la salah. On continue. Et justement, il cite un récit, et c'est là qu'on aime les contemporains, parce qu'ils sont capables de nous ramener des récits, parfois de tabi'in, parfois de atba'i tabi'in, qu'on ne retrouve pas forcément dans les livres des anciens. Ainsi donc, il nous rapporte un récit concernant Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. On parle de Ali, fils de Hussein, lui-même fils de Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, le fils de Hussein, radiallahu anhu, qui s'appelait donc Ali. Il est rapporté que lorsque Ali, rahimahullah, lorsqu'il avait terminé d'accomplir ses ablutions pour la salat, il tremblait, il se mettait parfois à trembler de peur, de crainte, ra'ada. Et on lui a posé la question, faqila lahu fi dhalik, faqala wayhakum atadruna ila man aqum wa man uridu an unaji. Quand on lui posait la question, mais pourquoi tu te mets dans cet état, on va juste faire la salah. Il dit que, mais vous ne comprenez pas, vous ne prenez donc pas conscience devant qui je vais me tenir debout. Lorsque je fais mes ablutions et je m'apprête à démarrer la salah, j'essaie d'intégrer, de comprendre que je vais être debout devant Allah, Rabbul Izzah, et c'est normal que j'ai cet effroi et que je tremble. Et j'imagine et j'essaie de comprendre que je vais demander des choses à Allah, le maître des mondes, le maître de l'univers, et il est normal que mon cœur frémisse. Ouais, ce genre de récit nous met franchement mal à l'aise. Pourquoi ça nous met mal à l'aise? Parce que ça nous fait réaliser qu'on est vraiment très 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 loin. Et là, on ne parle pas de la salat des sahabes, on parle des petits-fils, donc un tabi'in ou atba' tabi'in. On voit le niveau de concentration, on ne parle même pas de la salat, c'est la préparation psychologique qui est également une préparation spirituelle à la salat, c'est cette prise de conscience que la salat, c'est se tenir debout devant Allah, devant celui qui est As-Sami' al-Basir, qui entend tout, et qui voit ce qu'il y a de ton cœur, qui sait ce qu'il y a de ton cœur, et se tenir devant Al-Azim, le majestueux, devant le très clément, le très miséricordieux. Pour eux, ils l'avaient compris que c'était maqam, azim, c'était une situation exceptionnelle. On est loin de ce niveau, mais on peut monter le niveau. On peut essayer, quand j'accomplis mes ablutions, je dois, lorsque je me dirige vers la mosquée ou alors vers mon tapis de prière, je dois réaliser que je vais implorer Allah et faire ses louanges, et donc me mettre au moins dans les conditions de concentration avant de commencer la salah. Le cheikh rappelle également que Alhamdou, les louanges, dit que les louanges que toi tu fais, Ibrahim, Mohammed, Abdul Malik, les louanges d'Allah que tu fais, n'oublie pas que les anges, on appelle ça les grands, les anges de Muqarrabin qui sont proches d'Allah, comme les Hamalatul Arsh, les anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal, ou Aman Hawlahu, ainsi que les Malaïka qui sont autour du trône d'Allah, ils font les hamd lillah, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, ceux qui portent, j'ai pas la traduction exacte, traduction approximative, ceux qui portent le trône d'Allah ainsi que ceux qui sont autour. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, célèbrent les louanges de leur Seigneur. Et le terme qui a été utilisé, c'est bihamdi. Hamd, c'est ce qu'on dit alhamd. Il veut donc dire que, sache que quand toi tu dis alhamdulillahi rabbil alamin, tu fais les louanges d'Allah azza wa jal au même titre que les anges qui portent le trône d'Allah. Ils ont l'honneur de faire le hamd lillah. Et toi, la chance qu'Allah te donne, simple insan, banu Adam, de prononcer les mêmes termes pour les louanges d'Allah que les anges qui portent son trône. Également, il nous rappelle que l'ensemble de la création fait les louanges d'Allah. Oui, min shayin illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Le sens du verset, qu'il n'y a rien sur terre qui ne fait pas les louanges d'Allah. Yusabbihu bihamdi rabbihim, qui célèbre sa gloire et ses louanges. Là aussi, on a le terme hamd. Et mais mais vous ne comprenez pas leur louange et leur tasbihat. Ça veut dire que l'ensemble des créatures d'Allah font les louanges d'Allah, et toi, tu t'inscris parmi ces créatures, lorsqu'Allah te donne tawfir de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu te places parmi toutes ces créatures qui sont dévouées et qui reconnaissent le Allah Azza wa Jalla comme leur Seigneur et qui font son adoration toute leur vie. Donc remercie Allah qui te donne cette possibilité. Et dernier point qu'on va citer du livre de ce cheikh, là ça nous amène vers Ihtisab ul-Ajr, l'espoir de rétribution. Et que quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sache que, bien sûr, ce qu'on a dit, qu'Allah répond à ta formule, mais également, quand tu dis Alhamdulillah, c'est quelque chose qui va peser très lourd dans ta balance, Yawm al-Qiyama, le jour du Qiyama. Et le croyant doit en permanence faire le lien entre ses actions et leur portée, et ce que cela va donc lui apporter le jour du Qiyama. Hada. Et justement, il cite le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wasalam dit walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sachez aux croyants que dire alhamdulillah tamla'ul mizan, ça remplit la balance. Al mizan, on parle de mizan al hasanat, les mizan al hasanat wa sayyiat, bien sûr, mais on parle de mizan al hasanat, la balance des bonnes actions. Je répète, alhamdulillahi tamla'ul mizan, le fait de dire alhamdulillah, ce dhikr est très lourd et prend tamla, ça vient de malayamla ou remplir, ça remplit la balance des bonnes actions au jour de Qiyam. Et combien de fois on dit alhamdulillahi rabbil alamin par jour? Au minimum 17, si on rajoute les witr, c'est 20 fois, et si on rajoute les nawafil et ainsi de suite, mashallah, ça peut aller à 30 à 35 à 40, mais tout ça Ce sont des récompenses que nous verrons, incha'Allah, dans notre balance au jour de Qiyam. Ce sont également des moments où, quand on lit 17 fois par jour, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous recevons cette réponse qui vient de notre Seigneur Azza wa Jal, et c'est un grand honneur. Hada. Voilà quelques points concernant la première partie du premier verset, Alhamdulillah. Il reste la deuxième partie, Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va s'arrêter là. On avait prévu de faire 30 minutes au maximum. J'ai oublié de mettre mon chronomètre d'ailleurs. On est à 35 à peu près. Et Rabbil Alamin nécessite également pas mal de développement, pas mal d'explications. Et je pense qu'on peut se permettre de se donner du temps pour expliquer posément le mieux possible, avec le plus de détails, afin que nous retenions, Inch'Allah, ce qu'Allah nous tawfiq de retenir, pour que nos prières montent un peu en grade et en qualité, en comprenant, Inch'Allah, le sens des versets de Al-Fatiha. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de comprendre ces paroles, qu'Allah nous accorde la sincérité et ouvre nos poitrines pour que ces paroles pénètrent nos cœurs, et qu'Inch'Allah, nous trouvons un peu plus de concentration, de dévotion dans nos salats, et qu'Allah Rabbul Izzah accepte nos prières durant cette dernière décade. C'est vraiment le moment où on doit faire le maximum d'efforts. C'est-à-dire que normalement, nous devons redoubler d'efforts dans cette dernière décade. Celui qui a la possibilité de ne pas dormir du tout, qu'il ne dorme pas, ce serait l'idéal. Le prophète alayhi salat wa sallam ne passait aucune nuit entière en ibada. Il faisait toujours un partage entre les prières et le sommeil. C'est le juste milieu. Mais on connaît les hadiths qui parlent de la dernière décade où il pliait son j'allais dire le matelas, on va dire la natte sur laquelle il dormait, parce qu'il ne dormait pas les nuits de la dernière décade, sans distinction des nuits paires et impaires, et il passait l'intégralité de sa nuit en ibada. Donc celui qui a la possibilité de le faire, il essaie de le faire au mieux, Inch'Allah, en variant les actes d'adoration, et Inch'Allah, il demande à Allah de l'aider également. Maintenant, bien sûr, si une personne a une responsabilité, un travail ou une profession qui nécessite une certaine vigilance, le lendemain, et ainsi de suite, ben là, bien sûr, ça va être compliqué de passer la nuit en ibada, mais faites au mieux, faites. Ce que nous devons retenir, c'est que on doit faire le maximum, jusqu'à ce que notre cœur soit persuadé qu'on a donné tout ce que nous pouvions. Et ce qui était au-dessus de notre capacité, je veux dire que quand vous commencez à vous endormir dans la salat et que vous voyez que c'est plus possible, mais je trouve ça déjà magnifique qu'on ait montré à Allah nos limites d'être humain. Être humain qui a une journée de travail, qui a connu peut-être des difficultés, des situations délicates, et ainsi de suite, et qui essaie de donner le maximum de temps pour adorer son Seigneur, mais qui à un moment donné n'en peut plus et s'affale entre deux sijida pour dormir en position de sujoud ou dormir assis ou ainsi de suite. Même ça, je pense que c'est un sacrifice qui vaut le coup, montre à Allah notre faiblesse, mais notre envie de lui plaire dans cette dernière décade et d'être parmi les élus qui auront la récompense de la nuit du destin. Et les mashaïrs rappellent que il suffit d'être présent, de répondre présent à chaque nuit sans distinction de père et impair, depuis maintenant jusqu'à la Laylatul Eid, jusqu'à la veille de Shawwal, pour être inshallah parmi ceux qui auront répondu présent pour la nuit du destin. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte cette assemblée, illumine nos cœurs, illumine nos demeures, nous accorde sa bénédiction, sa baraka et sa protection, et nous donne tawfiq de mettre en application. Jazakum khair. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khairan.